Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le réveil culturel à la radio ou en podcast, émission préparée avec Corinne Amar, réalisée par Vincent Abouchard avec ce matin à la prise de son Pierre Monteil. Alors cinéma comme tous les mercredis, mais cinéma à la maison, reconfinement oblige, avec comme prescription du jour le splendide coffret Ouzou en couleur édité par Carlotta, six grands films du grand metteur en scène japonais Yasujirō Ōzu, réalisé à la fin de sa carrière, donc des films en couleur d'Ōzu. Mon invité ce matin est l'écrivain Marc Potrel, qui a écrit une biographie du réalisateur japonais, intitulée tout simplement Ōzu, car Léa vient de rééditer. Et on retrouvera en fin d'émission Michel Simon au téléphone, Michel Simon de la revue Positif, autre grand fan du maître japonais.
Le réveil culturel. Mercredi, cinéma.
Yasujirō Ōzu est né en 1903, il est mort en 1963, c'est-à-dire relativement jeune, à l'âge de 60 ans, mais sa vie a été remplie de films puisqu'il est l'auteur de 54 longs-métrages, dont Gosse de Tokyo, Printemps tardif, Voyage à Tokyo, bien sûr, Printemps précoce et Le goût du saké. Là, on entend justement un extrait du film Le goût du saké. Il a été découvert tardivement en France dans les années 80, mais depuis aujourd'hui, beaucoup de cinéphiles le considèrent comme l'un des plus grands cinéastes japonais avec Kenji Mizoguchi. Et au Japon, Ōzu est connu depuis les années 30 et dans tous les genres, dans la comédie, le drame, en passant par le film noir. Son thème de prédilection, c'est la vie familiale japonaise, la vie familiale témoin des bouleversements sociaux du pays. Carlotta donc sort un coffret de Blu-ray des films d'Ōzu, Fleur d'équinoxe, réalisé en 1958, Bonjour et Herbe flottante, réalisé l'année d'après, Fin d'automne, réalisé en 1960, Dernier caprice, qui était réalisé en 61, et puis enfin l'ultime film sorti en 1962, Le goût du saké, avec des suppléments consistants et très intéressants, des documentaires qui analysent l'œuvre du cinéaste. Et en plus de ce coffret, Carlotta réédite les carnets d'Ōzu, et c'est d'ailleurs à partir de ces carnets que l'écrivain Marc Potrel a pu imaginer la vie de Yasujirō Ōzu dans un roman récemment réédité chez Arléa et tout simplement intitulé, je le rappelle, Ōzu. Bonjour Marc Potrel.
Bonjour.
Est-ce qu'on peut dire que la vie de Ōzu ressemble à ses films ?
En fait, c'est une vie absolument incroyable, et quand j'ai redécouvert les films de Ōzu, j'ai réalisé parallèlement, donc j'ai lu aussi les carnets, j'ai regardé un petit peu la biographie, j'ai réalisé qu'il manquait un film dans la filmographie de Ōzu, c'était le film de sa vie, parce qu'il avait une vie absolument incroyable en étant chaque fois présent à des moments inouïs de l'histoire japonaise. Et en traversant ces moments, à commencer par le 1er septembre 1923, qui est le grand tremblement de terre qui détruit l'intégralité de la ville de Tokyo.
Il a 20 ans, auquel, à cette époque.
Ouais. Ōzu survit. Mmh. Et en découvrant ça, j'ai voulu justement raconter me mettre à l'intérieur de ce moment incroyable qui est de traverser ce tremblement de terre, cet incendie énorme qui ravage Tokyo, et d'y survivre ensuite. Donc il a 20 ans, il n'a pas encore commencé à faire du cinéma. Donc j'ai voulu raconter toutes ces scènes, tous ces moments de vie qui auraient fait un film incroyable.
Comment définir le cinéma d'Ōzu ? Vous, l'écrivain Marc Potrel, quel mot mettriez-vous sur la filmographie de Yasujirō Ōzu ?
C'est vrai que l'idée qui vient tout de suite, c'est de parler de formalisme, d'épure, mais en fait, c'est un cinéma qui a beaucoup évolué entre les premiers films comiques Et puis les films couleurs de la fin, en passant par les films les plus célèbres comme le Voyage à Tokyo. C'est multiple, c'est justement comme la vie d'Ozu, c'est à la fois quelque chose qui est très tragique et en même temps comique, à la fois très dramatique et très sérieux, et aussi sans sérieux. Donc c'est vraiment, je pense que son œuvre cinématographique est beaucoup plus diverse que ce qu'on imagine.
Marc Potrel, quels sont les films de Ozu qui vous ont le plus marqué et pour quelles raisons?
Le goût du saké, sans doute son dernier film, parce que c'est à la fois la vie familiale et en même temps la boisson qui était très présente dans sa vie, et puis les repas, l'amitié, cette espèce de va-et-vient entre la solitude et la compagnie des autres.
Dans votre roman sur Ozu, parce que c'est un roman, même si vous utilisez des éléments biographiques, même si vous êtes beaucoup inspiré de ses carnets, vous avez réussi donc ce petit roman qui ressemble un peu au cinéma d'Ozu, c'est-à-dire à sa façon de filmer, au ras du sol, à poser sa caméra à hauteur de tatami, la position assise au Japon, pour impliquer le spectateur comme un membre de la famille. Et donc vous racontez ça, donc la vie Ozu en flash, en chapitres d'ailleurs très courts, des histoires d'amour contrarié, les moments durs, les successions de drames familiaux, son bureau qui brûle, sa mère qui disparaît. Qu'est-ce qui vous a le plus bouleversé dans le rapport entre la vie de Ozu et les films qu'il a réalisés, c'est-à-dire ce qu'il projetait dans son cinéma, Marc Potrel?
Sa capacité de travail malgré tous les drames, tout ce qui lui arrive. Il continue sans arrêt à écrire, à faire à peu près tous les ans un nouveau film, et voilà, à être beaucoup aussi, il y a quelque chose d'étonnant qui est très japonais, c'est qu'il passe son temps à se déplacer dans les trains, d'où ensuite la présence fréquente des trains dans les films d'Ozu. Je voulais le montrer justement dans tous ces déplacements continus entre les studios, entre ces maisons, entre les auberges, entre la vie très solitaire, très débridée d'Ozu, puisque voilà, il boit beaucoup, il avait quand même un problème d'alcoolisme, c'est pour ça qu'il, c'est un des éléments qui explique qu'il meurt jeune, il avait une santé défaillante. C'est sa capacité de résister à tout ce qui lui arrive et de continuer à travailler avec aussi une joie permanente qu'on voit beaucoup dans ses films d'ailleurs. Espèce de côté positif et de capacité à se projeter en avant et à avoir en permanence de l'espoir quoi qu'il arrive.
Carlotta, je le disais, sort un coffret des derniers films de Ozu, les films en couleur, en Blu-ray, Fleur d'équinoxe, Bonjour, Air flottante, Fin d'automne, Le dernier caprice et Le goût du saké. On en parlait, Marc Potrel. Est-ce qu'on peut dire que le livre que Carlotta d'ailleurs réédite, Les carnets d'Ozu, est une œuvre littéraire? Vous l'écrivain, Marc Potrel?
Il y a des passages qui sont incontestablement littéraires et qui sont passionnants, notamment tout son journal pendant la guerre sino-japonaise, où Ozu est donc enrôlé dans l'armée impériale japonaise et se retrouve en Chine. Et là, il y a des descriptions vraiment magnifiques et très, très dures sur la vie des soldats japonais. C'est aussi quand même un carnet, un journal, un carnet intime, donc il y a beaucoup de choses qui sont un peu répétitives, mais c'est vrai que on peut le lire en continuité comme vraiment une véritable œuvre de diariste, une véritable œuvre un véritable journal intime avec une qualité littéraire présente.
Je vous propose d'écouter un autre écrivain parlant du cinéma de Yasujirō Ozu. Il s'agit de Dany Laferrière qui se prête à l'exercice pour le site Cinétech la Cinémathèque des réalisateurs.
Ce que j'aime chez Ozu, c'est sa discrétion. Il filme discrètement. Et tout a été éliminé, dégagé avant que la caméra arrive. Et tout le vide même qui est dans l'espace qu'il filme, à un moment donné, on se dit, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui reste? Très peu de choses. Et c'est là l'émotion.
Ah,
il construit cette petite vie que l'on voit à l'écran sur des petits déplacements très brefs. On peut à peine mesurer les distances entre les endroits où il va. Il est au bureau, au travail, il règle des petits problèmes humains, il va chez lui, il passe ensuite voir ses amis dans un bar où ils se réunissent pour manger, en parlant sans arrêt, parce qu'il parle sans cesse pendant qu'il mange.
Ozu, comme le cinéaste du train-train d'une vie banale, de la discrétion, du dépouillement, c'est ce que disait Dany Laferrière. Dany Laferrière qui parle du cinéma d'Ozu en parlant de la discrétion, le dépouillement, mais aussi sa manière très particulière de filmer le train-train d'une vie banale. Est-ce que ce sont des sentiments que vous partagez, Marc Potrel, avec Dany Laferrière?
Oui, c'est vrai que Ozu, en fait, est toujours touchant. Il a une capacité de se concentrer sur des choses très simples, mais d'en extraire le côté le plus à la fois le plus banal et le plus fort, le plus émouvant. Automatiquement, il est universel. Il parle aux Japonais comme aux Européens.
S'il fallait choisir un film pour connaître, pour rentrer dans l'œuvre, dans l'univers d'Ozu, un des films de ce coffret de Carlotta, Fleur d'équinoxe, Bonjour, Air flottante, Fin d'automne, Dernier caprice et Le goût du saké, Marc Potrel, quel choix?
Alors j'aime beaucoup Le goût du saké, mais il y a aussi un autre film, Bonjour.
Ça, c'est en 1959.
C'est très drôle. C'est l'histoire des deux frères. Et déjà, c'est très formaliste. Il y a beaucoup de scènes entre les maisons, des plans totalement géométriques. Et au milieu de ça, il y a cette simplicité, cet humour et cette relation des deux frères. Je crois que c'est le film le plus accessible d'Ozu.
Marc Potrel, merci d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle que votre livre, Ozu, est réédité chez Arléa. Merci Marc Potrel.
Merci à vous.
Le réveil culturel, Tofik Hakem sur France Culture.
Dans un instant, Michel Simon du magazine Positif. Bonjour Michel Simon.
Bonjour, Tofik Hakem.
Vous avez reçu, vous aussi, ce coffret de Ozu en couleur, les derniers films de Yasujirō Ozu en couleur. Qu'en pensez-vous, Michel Simon ?
Bah, écoutez, Zou, c'est évidemment un immense cinéaste que l'on a découvert très tard, pratiquement après sa mort. Il est mort en 1963, et si vous regardez les revues et les livres des années 50, aucune mention de Zou nulle part. Donc c'est une découverte très tardive. Après sa mort, même les dernières années, justement l'époque des films en couleur qui ont été envoyés dans les festivals, on a commencé à parler de lui. Mais dans les années 50, il n'y avait rien du tout. On ne parlait que de Kurosawa et de Mizoguchi. Mais en tout cas, Zou est un cinéaste capital. Et évidemment, ce qui est très intéressant, c'est cette série de films en couleur, parce que c'est un cinéaste très formaliste dont on retrouve toujours la signature identique dans tous ses films. C'est un des cinéastes où il y a le moins de variations entre chaque film. Il n'y a pas de fondu enchaîné, il n'y a pas de travelling, il n'y a pas de mouvement de caméra. Et dans les derniers films en couleur, la seule différence, c'est que ça magnifie certains éléments de ces films. C'est-à-dire, par exemple, pas du tout les visages. Les visages en noir et blanc sont aussi spectaculaires. D'ailleurs, il y a très peu de gros plans chez lui. Mais néanmoins, l'acteur est magnifié dans les films en noir et blanc autant qu'en couleur. Mais ce qui est différent, c'est par exemple les textures des fleurs que l'on voit en couleur, ou bien les mosaïques, c'est-à-dire le quotidien. Et Ozu, c'est le peintre avant tout du quotidien. On a pu dire que c'était le Tchekhov japonais, c'est pas faux. Donc la couleur permet de rendre encore plus sensuel et encore plus présent les éléments du décor.
Ce coffret de Carlotta contient Fleurs d'équinoxe, Bonjour, Herbes flottantes, Fin d'automne, Dernier caprice, Le goût du saké. Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore le cinéma d'Ozu, Michel Simon, par quel film commencer ?
Je citerai Le goût du saké, c'est-à-dire son dernier film, parce que d'abord c'est avec un des acteurs fétiches, Shishu Ryu, qui était vraiment son comédien préféré, qui se résigne au chagrin. C'est la dissolution de la famille, qui est un des grands thèmes de Ozu, qui était un conservateur, mais un conservateur modéré. C'est-à-dire il savait que l'ancien devait céder la place au nouveau, mais néanmoins il aimait aussi l'ancien. Donc c'est un film sur la solitude, c'est un film sur l'ultime rencontre de l'individu avec la mort. Je pense que peut-être, je dirais, les six films sont admirables, mais peut-être que Le goût du saké, dont le titre japonais est Un après-midi d'automne, car ce qui est intéressant chez Ozu, c'est qu'il y a énormément de saisons dans les titres. Il y a les fins d'automne, il y a le...
Fleurs d'équinoxe.
Voilà, Fleurs d'équinoxe, c'est sur la fin de l'été, etc. Ça veut dire aussi, c'est le côté cyclique, c'est-à-dire les saisons, c'est un peu le cercle de la vie.
Et enfin, Carlotta réédite aussi les carnets d'Ozu. Michel Simon, je ne sais pas si vous l'avez eu entre les mains. Ce livre était indisponible depuis quelques années déjà. Hein. Et là, il ressort.
Mon grand âge me permet d'avoir ce livre chez moi. Ouais. J'avais la première édition, évidemment. Oui, c'est très intéressant. C'est pas non plus Eisenstein, hein, c'est pas des textes d'une profondeur exceptionnelle, mais c'est pour les fous de Ozu dont je suis, c'est très intéressant parce qu'il y a effectivement une série de notations presque aussi minimalistes que son cinéma.
Alors je suppose qu'il faudra attendre le mois prochain pour avoir votre critique de ce coffret d'Ozu que sort Carlotta. Et pour ce mois-ci, Michel Simon, qu'est-ce que vous nous mettez en une du magazine Positif, sachant qu'on ne peut pas aller au cinéma, sachant que le cinéma se consomme chez soi en ce moment ?
Positif, comme il l'a fait faire avec le premier confinement, parle néanmoins des films qui devaient sortir, parce que les lecteurs de Positif gardent la revue et ils se référeront à elle pour éviter les embouteillages de l'année prochaine. Donc on parle de Mei Wen, de ADN, on parle de Balloon, un magnifique film tibétain de Pema Tseden, on parle du premier film de Juste Philippot Lanuet, mais surtout, pour ceux qui ne sont pas sensibles trop à l'actualité, il y a un dossier que je trouve moi-même passionnant sur le plan séquence. Alors, le plan séquence, c'est évidemment quand il n'y a aucune interruption par le montage et que lorsque l'on filme une séquence en 10 minutes, par exemple, sans coupure. Et le plan séquence, c'est vraiment les grands maîtres l'utilisent. Et c'est une série de... Il y a 22 pages sur le plan séquence et sur des metteurs en scène aussi variés que Mizoguchi, le plus grand cinéaste japonais, je me permets de le dire quand on parle d'Ozu, mais le plus grand c'est tout de même Mizoguchi. Ozu arrive tout de suite après.
Et ils étaient très proches d'ailleurs.
Oui, mais Mizoguchi, c'est la tragédie, c'est la violence des passions, c'est le côté social, c'est la défense des femmes. Enfin, c'est un cinéma plus proche des Occidentaux, même si c'est très japonais. Ozu, contrairement à ce que certains Japonais disent, n'est pas le moins ce japonais des Japonais. C'est pour moi le plus japonais des Japonais. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on n'envoyait pas les films d'Ozu dans les festivals, parce que les Japonais croyaient que c'était incompréhensible pour les étrangers, alors qu'ils envoyaient Kurosawa et Mizoguchi. Donc pour moi, Ozu, c'est le plus japonais des Japonais. Mais pour revenir au plan séquence, il y a des textes sur Hitchcock, sur Wells, sur Robert Altman, sur De Palma, sur Sokurov, car c'est une figure de style tout à fait passionnante et que nous étudions sur 22 pages.
Enfin, pour terminer, votre conseil DVD, Michel Simon, puisque aujourd'hui le cinéma se consomme chez soi.
Alors, conseil DVD, c'est un film qui est ressorti en salle, mais qui ressort également en DVD, qui est un chef-d'œuvre absolu de Hu Xiaoxian, On ne quitte pas l'Asie. C'est un cinéaste de Taïwan, un des plus grands cinéastes vivants, qui a présenté Les Fleurs de Shanghai au Festival de Cannes. Ce chef-d'œuvre n'a rien eu au palmarès, mais on est habitué à ce genre de bévue du jury. Et c'est un film absolument sublime sur la prostitution à Shanghai au début du XXe siècle. C'est un enchantement pour les yeux, c'est un film absolument sublime, comme je le répète une deuxième fois, qu'il faut absolument se procurer pour ceux qui ne l'ont pas vu en salle.
Merci beaucoup Michel Simon.
Merci Toufik Hakem.
Le réveil culturel de Toufik Hakem est à retrouver sur franceculture.fr et on peut s'abonner au podcast de l'émission en passant par l'application Radio France.
Passez une excellente journée masquée. On se retrouve demain à la même heure.